Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le cauchemar continue dans le sud-est du pays.
De nouvelles inondations et des victimes. Cette nuit, 3 secouristes sont morts dans le crash de leur hélicoptère près de Marseille. Nous appellerons Étienne Baudu dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, l'hommage aux 13 militaires français tués lundi dernier au Mali. Et puis, à l'heure où s'ouvre la nouvelle conférence sur le climat, la COP25 à Madrid, nous nous demanderons si la France respecte ses propres engagements signés à Paris en 2015. Ce sera la question du 8h.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Leurs corps ont été retrouvés à 1h30 cette nuit. 3 secouristes qui volaient en direction du Canet se sont crashés avec leur hélicoptère au nord de Marseille. Ils intervenaient sur les intempéries qui ont de nouveau frappé la Côte d'Azur ce week-end. Vous êtes à proximité du lieu de l'accident. Étienne Baudu, bonjour.
Bonjour.
Un accident dont on ne connaît pas encore les causes. Une enquête est ouverte.
Oui, une enquête pour éclaircir certaines zones d'ombre. Hein. Les communications radar et radio, par exemple, ont été interrompues brusquement, sans signal de détresse, semble-t-il. Et puis, il faut également connaître l'heure exacte du crash. Elles sont encore à préciser. Mais en milieu de soirée, René, qui habite un mobilhome à proximité, a entendu un hélicoptère passer, selon lui, beaucoup trop bas.
Je dormais pas, rien du tout, et je regardais la télé. D'un coup, j'entends un bruit bas, fort, très fort. Les hélices, les pales, je les ai entendues. Alors, donc, il était bas. Hein. Après, peut-être il a monté un petit peu plus haut pour prendre les collines. Et c'est là qu'il a dû avoir quelque chose. Ça, après, je sais pas.
Quel temps il faisait à cette heure-là?
Brumeux. Tout à les collines, ils étaient brumeux. Il y avait le brouillard.
Parce qu'en plus, il y a une ligne de haute tension ici,
voilà,
c'est ça?
Voilà, il y a des lignes de haute tension et que c'est dangereux.
Alors attention, René a-t-il entendu l'hélicoptère qui s'est écrasé ou d'autres appareils qui sont venus explorer le terrain à la recherche des débris du crash? Il faudra bien sûr le déterminer. À bord de l'hélicoptère, en tout cas Dragon 30, hein, c'est son nom de code. 3 personnels, Jean, jeune pilote arrivé il y a 2 ans à la sécurité civile, Michel, le mécanicien opérateur de bord, chevronné, et Norbert, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône, spécialisé dans les hélitreuillages. L'appareil était d'ailleurs venu le chercher, Norbert, directement à Martigues, de l'autre côté de l'étang de Berre, avant de s'envoler vers le Var pour une mission de reconnaissance des zones inondées et peut-être une mission de sauvetage sur place.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Étienne Baudu, en direct pour RTL Émotion, donc sur la base de Marignane, base de la sécurité civile. Écoutez, l'un des collègues du mécanicien mort cette nuit, Emmanuel Jean III, forcément très ému.
Ce matin, oui, c'est le choc, quoi. Nous, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas perdu d'équipage dans la sécurité civile. C'est pas simple. On essaie de sauver des vies et puis on redonne le nôtre. Le mécanicien était un mécanicien chevronné mécaniquement. C'était un mec en or, un super caractère. Moi, je suis un peu. C'est un peu dur ce matin.
Le cœur gros.
Oui, un peu. Ouais.
L'un des collègues des secouristes morts cette nuit répondait à Patrice Thomas.
11 morts en 10 jours, hein. C'est le bilan des intempéries qui frappent le sud-est depuis la semaine dernière.
À Mandelieu, la Napoule et Cannes, dans les Alpes-Maritimes, plusieurs quartiers inondés ont dû être évacués dans ces deux villes, ainsi qu'à Pégomas. Notez bien que toutes les écoles jusqu'au lycée resteront fermées ce lundi. 2 hommes sont morts hier à Fréjus. On y retrouve notre envoyé spécial Vincent Serrano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec des habitants qui découvrent depuis quelques heures l'ampleur des dégâts.
Oui, dans ce lotissement balayé depuis quelques minutes par les lumières, les lampes torches des habitants qui viennent constater les dégâts chez eux. On va entrer dans la maison de Dominique avec cette porte d'entrée complètement éventrée, fissurée par la pression de l'eau. Dominique, oui. Beaucoup de dégâts cette nuit.
Ah bah cette nuit, ça a été terrible. Hein. Écoute, je suis désolée, mais c'est terrible. Regardez, la dernière fois, on avait 80, là on a 1m30. Regardez les meubles, là, c'est le peu qui restait. Bah, tout est là, dans le jardin, tout est dévasté.
Un frigo américain, il est ici, là. Et il s'est éventré sur le plan de travail. Là,
là c'est le ras-le-bol général.
Et pour se mettre en sécurité, Dominique, vous avez dormi à l'étage de votre maison.
Ah ben, on était obligés. On pouvait pas partir comme ça, en pleine nuit, n'importe où. Hein.
Moi, j'ai tellement eu peur, moi. J'ai commencé à préparer pour mon tour, voyez. Là, c'est à monter des 3 marches en l'espace de, je sais pas, 5-6 minutes. Hein.
Et en tout cas, vous commencez déjà dès ce matin, de toute façon, les opérations de nettoyage.
Ah ben, regardez, depuis 3 heures du matin que je suis toute seule, avec les raclettes, hein, on enlève le plus, surtout la boue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un meuble comme ça, maintenant, même qu'il est ancien, que c'est du bois massif? C'est foutu, faut tout jeter.
Bon courage, Dominique, en tout cas, pour mettre vos meubles dans cette benne qui est à l'entrée de votre lotissement, une benne pleine à craquer des dégâts de la semaine dernière, des meubles, des tables, des chaises qui, avec le courant de l'eau hier soir, se sont retrouvés partout dans la rue.
Reportage signé Vincent Serrano. Merci Vincent, envoyé spécial de RTL à Fréjus. Et nous sommes maintenant avec le maire d'hier dans le Var, Jean-Pierre Girand. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On n'en sort pas et pourtant, il y a un programme d'action de prévention des inondations qui a été mis en place fin 2016. Pourquoi ça continue? Pourquoi ce cauchemar continue? Qu'est-ce qui se passe?
Mais parce que les procédures sont extrêmement longues et avant d'être autorisé à faire des travaux et avoir des financements, il faut attendre des années. Les fameux papiers qui sont d'abord des papiers d'intention pour les études, puis des papiers de travaux.
Alors ce sont les programmes d'action de prévention des inondations. Les
voilà, papiers. Pour ouais. exécuter les réalisations, prennent un temps incroyable. Ça fait plusieurs années qu'ils ont été lancés, par exemple dans la vallée du Gapot, et on nous annonce des travaux possibles en 2024. Et pendant ce temps, on le voit, deux fois par an, il y a des inondations extrêmement importantes. Dès lors que des travaux peuvent être faits en aval du fleuve sans remettre en cause l'économie générale du projet, il faut donner des dérogations et des possibilités. Nous avons réalisé des travaux il y a 3 ans par dérogation d'un préfet positif. Cela a permis d'éviter des accidents dans un lotissement qui est pratiquement dans le lieu d'un fleuve, en renforçant les berges notamment. Si nous avions dû attendre que le papy soit réalisé, rien n'aurait été fait et on attendait 2024. Donc il faut partager les choses. Les papy pour l'économie générale du bassin versant, les bassins de rétention en amont, etc., etc. Mais la possibilité en aval du fleuve de faire des travaux de confortement des berges ou de facilitation de l'écoulement pour éviter les accidents.
Donc vous dénoncez, M. Girand, les obstacles administratifs qui retardent ces projets.
Oui, ce n'est pas l'absence de procédure que je demande, mais c'est qu'il y ait 2 types de procédures. Une procédure générale et globale pour l'ensemble du bassin versant, mais des procédures spécifiques pour des interventions plus ponctuelles qui permettent d'améliorer les choses. Comme en toute chose, le mieux est l'ennemi du bien et il ne faudrait pas qu'un jour on puisse soigner quelqu'un qui est déjà décédé.
Merci beaucoup Monsieur Girand, Jean-Pierre Girand, maire d'hier dans le Var. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
RTL matin, 8h07.
C'est Madrid qui accueille la nouvelle conférence sur le climat.
Et les plus pessimistes y verront sans doute un symbole. Le nouveau maire de la capitale espagnole a tourné le dos aux engagements écolos de son prédécesseur qui avait restreint la circulation automobile en centre-ville. C'est déjà du passé. Du passé aussi l'accord de Paris de 2015. Les États-Unis ont quitté le navire et l'Australie et le Brésil n'en sont pas loin.
Et la France dans tout ça, respecte-t-elle ses engagements signés il y a 4 ans? Eh bien c'est la question du 8h.
Avec vous Virginie Garin à Madrid, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Édouard Philippe est attendu sur place tout à l'heure, il doit vanter les efforts de la France. Notre pays a promis de réduire ses émissions de 40% d'ici à 2030. Est-on sur la bonne voie?
Eh bien non, la France ne respecte pas pour l'instant ses promesses. L'an dernier pourtant, nos émissions de gaz à effet de serre ont un peu baissé, mais il aurait fallu faire 2 fois mieux pour être dans les clous de l'accord de Paris. Tout est calculé, c'est très précis, il y a dans la loi française des quotas de carbone, de pollution à ne pas dépasser chaque année. Eh bien l'an dernier, ils l'ont été de plus de 4%, surtout à cause du secteur des transports. Et d'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat créé par Emmanuel Macron lui-même l'a dit clairement dans un rapport au mois de juin, les efforts sont largement insuffisants. On rénove des bâtiments, mais c'est inefficace. Il faudrait augmenter la taxe carbone. Le gouvernement a fait le contraire. En fait, la France a des objectifs à long terme ambitieux. Ne plus émettre de carbone en 2050. Mais les moyens ne suffisent pas. Un exemple, la voiture. Les députés ont voté l'interdiction des véhicules à essence et diesel en 2040. Ils ont augmenté le malus, mais ça ne marche pas. Les ventes de SUV explosent en France.
Enfin Virginie, est-ce qu'il y a des pays qui, eux, sont sur la bonne voie?
Oui, la Suède par exemple. Plus globalement, les pays nordiques sont en avance sur nous. La Suède qui a une taxe carbone assez élevée et qui a réduit ses émissions d'un quart en 25 ans. Le Costa Rica ou le Maroc sont très ambitieux. Le Maroc qui met le paquet sur les énergies renouvelables, il a du vent et du soleil. Ou encore la Grande-Bretagne, présente en force ici à Madrid, qui pourtant dépendait beaucoup du charbon et qui a réussi la prouesse de diviser par 2 en 6 ans ses émissions liées à sa production électrique grâce à l'éolien mais aussi au nucléaire.
La question du 8. Signé Virginie Garin en direct de Madrid. On vous retrouve après ce journal, hein, Virginie, pour comprendre plus généralement à quoi ressemblent ces grandes conférences sur le climat. Il y a une semaine, 13 jeunes militaires français étaient tués au Mali. La France leur rend hommage cet après-midi. A tout de suite.
RTL, 8h10.
Lidl, reprise.fr.
RTL Matin.
RTL 8h11, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
C'est une cérémonie devenue hélas trop familière.
Des cercueils recouverts du drapeau tricolore placé dans la cour des Invalides. Le président Emmanuel Macron rend hommage cet après-midi aux soldats français tués lundi dernier au Mali. Les portes seront d'ailleurs ouvertes au public. 1000 places en plus sont réservées. Des élèves de Pau, de Gap, de Saint-Christol et de Vars, où se trouvent les régiments des victimes, seront présents. Tout comme Bernard Zins, son fils est en ce moment en opération au Mali. Cet ancien militaire de carrière juge ridicule ce qui, comme Jean-Luc Mélenchon, réclame la fin de la mission Barkhane.
C'est toujours la même chose quand il arrive une catastrophe au niveau militaire. Tout le monde dit, c'est pas la peine qu'on aille faire les imbéciles sur un terrain d'opération. Quant à dire qu'il faut que les jeunes qui sont là-bas reviennent, non. Ce n'est pas la peine qu'ils reviennent pour ressasser ça chez eux. Le mieux, c'est qu'ils se remettent directement dans l'action. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont eu une journée de relax avec des psychologues et continué leur action contre les terroristes. Celle de mon fils va jusqu'au mois de janvier et il était tout à fait pour continuer, ne serait-ce qu'en honneur et pour les camarades tombés.
Propos recueillis par Jean-Marc Terrier.
Et à 8h20, je vous le rappelle, nous sommes avec Camille. Camille est la fiancée du lieutenant Pierre Bockel, pilote d'hélicoptère mort la semaine dernière au Mali. Elle porte leur enfant qui donc ne connaîtra pas son père.
Un hommage aux Invalides aux allures de trêve alors que l'exécutif s'apprête à affronter cette semaine l'une des plus grandes colères sociales du quinquennat contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi et peut-être on verra bien les jours suivants. Toute cette semaine dans ce journal, nous allons faire connaissance avec ces cheminots qui défendent leur régime spécial. Quel est leur travail? Combien gagnent-ils? De qui parle-t-on précisément? Rencontre ce matin avec un agent de l'équipement sur les voies, c'est le terme technique, mais lui emploie une expression un peu plus imagée. Portrait signé Éric Vanier.
Laurent est entré en 2004 à la SNCF comme apprenti et aujourd'hui il est sanglier, comme l'on dit dans le jargon des agents d'entretien des voies. Il nous explique en quoi cela consiste.
On nous appelle les sangliers parce qu'on gratte le caillou, voilà, on enlève le ballast s'il faut remplacer une traverse. On fait un peu tout ce qui est physique, porter les traverses, les mettre en place. On fait ça en équipe et 22h, 6h, c'est l'heure qu'on fait souvent de nuit, le week-end aussi. Ça fait partie du métier, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Il a accepté de nous montrer sa feuille de salaire. Combien au bout de 15 ans d'ancienne?
Alors moi j'ai un traitement brut de 1480 €. Après ça peut augmenter avec des astreintes, hein, avec des nuits, forcément des week-ends. Moi j'arrive à 1500, 1600 en net à la fin du mois.
Plus les fameux avantages liés au statut, mais là, Laurent tempère.
On part un peu plus tôt à la retraite, c'est vrai, on cotise plus aussi. Hein. C'est ce qui fait que nos salaires sont un peu plus bas. Après, moi on me dit souvent, t'as le train gratuit. C'est bien, hein. Quand on passe sa vie dans les trains, quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie de prendre le train. Après niveau avantages aussi, on a un système de santé qui est quand même pas mal, hein. On a un système interne avec des spécialistes, hein, que ce soit ophtalmo, des cardiologues, et on est moins malade, on est mieux surveillé. Ceux qui diront les cheminots sont 6 mois malades dans l'année et les 6 mois qui restent en grève, c'est faux. Hein.
La retraite justement, Laurent, qui n'a que 31 ans, a du mal à se projeter.
J'ai pas compté parce que j'en suis loin, après je suis rentré à 16 ans, donc voilà, actuellement je crois qu'il faut 42 ans de cotisation, oui, parce que même chez nous il faut 42 ans. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut partir un peu avant, mais il faut avoir fait 42 ans. Donc 16 ans plus 42 ans, ça ferait 58 ans si ça bouge pas trop.
Et s'il veut partir avec une retraite à taux plein.
Portrait signé Éric Vanier. Menace de pénurie d'essence en Bretagne. Le nombre de stations ruptures est monté en flèche ce week-end depuis le blocage de plusieurs dépôts pétroliers par les professionnels du BTP qui protestent contre la disparition d'un avantage fiscal sur leur carburant. Le préfet du Finistère a réquisitionné des stations-service pour les véhicules prioritaires.
Et puis le nom du 64e Ballon d'Or sera donc connu ce soir.
Et c'est devenu une habitude, hein. C'est l'Argentin Lionel Messi qui devrait remporter le trophée pour la 6e fois. L'attaquant du Barça est le grand favori. Il y a parmi les 4 Français en lice Kylian Mbappé qui devrait encore repartir bredouille.
C'était donc le jour.